Bonjour à toutes et à tous. Donc un plaisir pour moi d'être avec vous encore cet après-midi, de pouvoir vous rencontrer. Et puis je suis content aussi de voir des nouvelles têtes et que le Seigneur encore vous fasse du bien. Et on a cette grande grâce de pouvoir étudier la parole de Dieu et comment cette parole forge nos cœurs et nos vies. Et c'est ce qu'on veut encore faire. Merci David pour la lecture. Et je vais prier, encore une fois, que Dieu conduise. Je vais aussi prier pour John en même temps, puisqu'on en a parlé, que Dieu fortifie encore les uns et les autres. Notre Dieu, notre Roi, merci. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bienveillance et ta bonté. Nous nous arrêtons parce que nous aimons ta parole. Nous aimons comprendre ce que tu as à dire aux uns et aux autres. Nous aimons comprendre comment les choses sont et ce que tu attends de nous, notre Roi. Nous voulons aussi comprendre ce que tu as fait pour nous. Aide-nous encore à aller de l'avant avec toi, que ce message glorifie ton nom, ce que nous allons étudier, que tu parles au cœur des uns et des autres, parce que nous lisons ta parole pour que tu nous parles. Nous profitons aussi de te remettre John, comme il a été demandé cet après-midi, que tu lui montres ta grâce et ta puissance, notre Dieu, que tu le renouvelles au plus profond de son cœur et de son âme. Tu dis que ta parole est capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit, et tu sais à quel niveau John a besoin de ta grâce. Alors œuvre par la puissance de ta parole dans son cœur. Bénis son épouse, qu'elle puisse avoir les mots qu'il faut et l'attitude qu'il faut. Et bénis l'église de Saint-Maur aussi, qui veut se mettre aux côtés de John et de son épouse pour que John retrouve cette vie, trouve cette vie que tu donnes à ceux qui t'approchent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous donne vie et c'est encore une grâce de pouvoir nous arrêter devant elle et être nourri par cette grâce, nourri par cette parole aussi. Alors vous êtes dans une série de 1 Pierre et c'est super, c'est vraiment encourageant de voir ce que Pierre écrit à son église et c'est vraiment un encouragement pour tous ceux et toutes celles en particulier qui traversent des moments difficiles. Qui n'a jamais traversé de moments difficiles? Eh bien, donc, cette lettre vous concerne toutes et tous. On est tous concernés parce qu'on passe toutes et tous par des moments difficiles. Et Pierre a cet objectif. Il sait qu'ils sont sous le feu de la persécution et il veut leur rappeler qui ils sont, qu'est-ce que Jésus a fait et dans quelle perspective ils doivent avancer. Et vous avez vu récemment la joie que Pierre a quand il pense à ses chrétiens et l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour eux. Ils sont sauvés, ils sont choisis, ils ont été appelés à la sainteté, ils ont un merveilleux héritage qui les attend. Et il veut leur rappeler ça, que malgré les difficultés qu'ils ont, il y a un merveilleux héritage qui les attend. Et on va voir que c'est un des thèmes importants dans ce que Pierre raconte. Et c'est intéressant aussi de se rappeler qui est Pierre. C'est quand même quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Il a vu Jésus. Quand il nous écrit, quand il nous parle, il parle pas juste parce qu'on lui a dit des choses, mais il a vécu les choses avec Jésus. Il a vu Jésus multiplier les pains. Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Tout à l'heure, dans un des chants, on disait en un seul mot, il est mort, ressuscite. C'est exactement ce qu'il a fait. Lazare sort. Hop. Waouh. Il a vu des choses. Et il a vu aussi la gloire de Dieu sur Jésus-Christ. À un moment, Jésus a été pris dans une nuée. Il a entendu une voix puissante du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre a vu tout ça. Et évidemment, il a vu Jésus-Christ ressuscité. Il a vu aussi sa propre fragilité. Et donc, quand il nous écrit, il n'est pas de haut. Il se met à nos côtés. Il sait que lui-même, il a renié Jésus-Christ. Et il sait comment Jésus l'a pardonné. Et c'est comment Jésus restaure. Alors, quand il écrit à ces chrétiens persécutés, il sait de quoi il parle. Et quand il nous écrit ici, et nous, on veut étudier cela, voyons que c'est quelqu'un qui a traversé ces choses-là qui nous en parle. Et dans ce texte, j'aimerais partager deux choses principales avec vous. L'appel que Pierre fait à cause de l'espérance, à cause du salut que Jésus-Christ a réservé Et ensuite, il va plonger son regard et un peu de temps dans la beauté du plan de rédemption de Dieu pour l'éternité. Il va d'abord encourager le peuple dans une direction à cause de leur espérance. Et il va ensuite leur rappeler que le fondement de leur espérance, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. L'espérance, un bien grand mot, et parfois en tant que chrétien, on peut un peu oublier cette belle espérance. Et pourtant, c'est ce sur quoi Pierre veut que ces chrétiens fondent leur vie. Qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous motive à traverser les épreuves? Qu'est-ce qui vous motive à rester chrétien, à aller de l'avant? Pierre, ici, en 1 Pierre chapitre 1, verset 13, il dira « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'est pourquoi, en fait, il reprend ce que vous avez déjà lu et vu, je pense la semaine dernière, sur 1 Pierre 1, verset 1 à 12, il y a deux semaines. Vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, vous avez un héritage, vous avez quelque chose de beau qui vous attend. Un jour, vous verrez, il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de doutes, plus de pleurs. Et en plus d'être de passage, c'est pas votre maison finale ici. C'est là-haut votre maison finale. Et cette espérance, c'est ce qui va aider les chrétiens à tenir ferme, à mettre leurs pensées en éveil. Ils disent, je suis pas là pour l'éternité sur cette terre, j'ai quelque chose d'autre qui m'attend. Donc je vais vivre avec cette perspective. Mes pensées, je vais les tenir en éveil. L'image qui est utilisée, c'est cindre les reins dans certaines versions. C'est quand les juifs marchaient, donc vous savez, à ce moment-là, les hommes mettaient des robes, et oui, et pas de pantalon, pas encore. Et pour pas se prendre les pieds dans leur robe, ils devaient serrer leur ceinture autour de leurs reins et pour pouvoir mieux marcher et aller même plus vite. Ceint tes reins de ta pensée. Rappelle-toi l'espérance qui t'attend. Et je donne cette image. Imaginez ce prisonnier qui a été condamné à 10 ans de prison. Alors que il estime qu'il n'avait pas autant fait que ça, et chaque jour pour lui est un calvaire. Il déteste la prison. Enfin, peu sont les gens qui aiment la prison, mais en tout cas, il n'aime pas la prison. Il n'aime pas chaque jour qu'il se lève dans cette prison et il dit c'est horrible, c'est horrible, c'est dur, les gens sont durs, il fait pas bon, et chaque jour est un calvaire. Mais après 3 ans, un nouveau président arrive à la présidence, et il dit, comme certains présidents le font, je gracie, ça veut dire je libère, et j'enlève la condamnation de certains prisonniers. Et au miracle, il en fait partie. Et il est annoncé que dans un mois, il sort de prison. Eh bien, est-ce que vous pensez que les 30 prochains jours qui suivent cette annonce, ce monsieur va vivre de la même façon ? Chaque jour de sa prison. Non. Il sera joyeux. Il sera content parce qu'il sait que la fin de son calvaire arrive. Il sait qu'il y a enfin une fin à cette épreuve. Il sait qu'il sera libéré. Oui, il reste encore 30 jours. Oui, il va encore être en prison pour quelques jours. Mais il sait où est-ce qu'il va maintenant. Sa situation n'a pas changé au niveau de l'extérieur. Mais dans sa tête, dans son cœur, il sait maintenant que cette épreuve aura une fin. Eh bien, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions quand il nous dit que votre espérance vous aide à avancer, que l'espérance de la fin de cette vie et de ce que Dieu a préparé de votre salut soit votre force. Gardons en tête la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est lorsqu'on est en Jésus. Lorsqu'on a reconnu nos fautes et qu'on lui a confié notre vie et qu'on a décidé de le suivre, il nous donne cette promesse. Et vous l'avez vu il y a 2 semaines, que nous avons un héritage avec lui et que nous avons le salut et cela nous donnera louange, honneur et gloire en sa présence. Persévérons. Quelle que soit l'épreuve que vous vivez, un jour ou un autre, elle se terminera. Toujours. Parce qu'un jour, soit Christ revient, soit vous passez de l'autre côté. Et je me permets, puisque la maman de grâce est dans notre église, donc j'ai prié pour ce monsieur dont elle parlait tout à l'heure. Et ce qui m'a marqué avec ce monsieur, il a dit « Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Oui, Dieu est le maître de notre vie. Mais un jour, tout se terminera. Et si vous êtes en Jésus, la gloire, l'honneur et la louange seront votre quotidien. Saignez le drain de votre étendement. Mettrez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée. Pierre ne donne pas juste l'espérance comme motivation et l'héritage qui nous attend. Il nous rappelle aussi notre identité. Verset 14, il dira « En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Et ça, c'est vraiment fort. Parfois, en tant que chrétien, on peut se dire « Je vais essayer de faire le bien parce que je sais qu'il ne faut pas faire le mal. » Ou peut-être parce que les autres, si je fais le mal, ça, ils vont pas être contents ou ils vont me dire « Je suis pas chrétien. » Et là, Pierre, il nous rappelle ce qui doit nous motiver à faire le bien. C'est notre identité d'enfant. Nous sommes des enfants obéissants. Et on sait qu'il vaut mieux avoir des enfants obéissants que des enfants désobéissants. Là, au fond, on a des parents qui s'occupent des enfants. La prière, et là, on a la grâce aussi avec Priscilla d'avoir eu Eliana il y a 3 mois. Notre prière, évidemment, c'est qu'elle soit obéissante. Et notre Dieu, le Père, c'est ce qu'il veut aussi, que ses enfants soient obéissants. Il aime ça et c'est bon. Et tout parent, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, quelle que soit sa culture ou sa religion, sait qu'un enfant obéissant, c'est tellement merveilleux. Votre identité, lorsque vous êtes en Jésus, lorsque vous êtes venu à lui, c'est que vous êtes les enfants de Dieu. Et votre identité, à cause de ça, elle vous pousse à ne plus vous conformer aux désirs que vous aviez autrefois, aux passions qu'on appelle charnelles, à ce qui nous attire vers l'égoïsme, vers la convoitise de la chair, vers le vol, vers le meurtre, la malhonnêteté, vers l'orgueil, la non-soumission à Dieu et à ses principes. Toutes ces choses, il dit, c'est autrefois, c'est plus en vous. Ah, mais moi, je suis toujours comme ça. Mais n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Donc, que tu as une nouvelle nature. Que tu as une nouvelle identité. Et donc, maintenant, tu fais partie d'une autre famille. Je ne sais pas si vous faites partie d'un groupe, d'un club, d'une équipe, d'une ville. Quand j'étais arrivé en France, je me rappelle, j'étais assez marqué par toutes les fois où certains disaient « Ouais, je viens du 9-3. Moi, c'est du 7-7. Moi, c'est du 9-4. » On aime bien faire partie de ce groupe, voilà, on est partie de cette identité. Il y en avait qui achetaient des t-shirts, vous avez 9-3 marqués dessus et tout, je dis, waouh, ils sont à fond, et puis il y en a qui faisaient des histoires dessus, des chansons dessus. Ils étaient fiers de leur appartenance, et presque parfois, ils essayaient d'avoir un style de ce département, par exemple, ou d'autres. Et Pierre nous rappelle que notre identité première, c'est pas le 9-3, le 7-7, ou le 9-4, ou c'est même pas notre culture, notre pays, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et ça détermine la façon dont je vais me comporter. Enfant de Dieu. Et ce que j'étais autrefois, c'est autrefois. Certes, ça revient parfois, hein, petit moment de colère, petit moment d'égoïsme, mais c'est autrefois, n'oublie pas, c'est des attitudes d'autrefois. Ton attitude aujourd'hui, c'est enfant de Dieu. Et après, il va monter encore d'un cran. Il va reprendre un texte de Lévitique qui revient plusieurs fois pour continuer à motiver ce peuple enfant de Dieu. Il va leur dire, au verset 15, il va vous rappeler, vous êtes enfant de Dieu parce que vous êtes appelé par Dieu. Et en fait, celui qui vous a appelé, celui qui vous a adopté, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a choisi, il est saint. Et on l'a chanté tout à l'heure 3 fois saint. il est écrit, et donc ça c'est une référence de Lévitique, verset 16, « Vous serez saints car moi je suis saint. » Donc, je viens d'avoir une fille, d'autres aussi viennent d'avoir des enfants. Bon, on peut s'attendre à ce que elle ressemble un peu quand même à une malgache, non? Si elle ressemble à une norvégienne, bon, on va se poser des questions. Si je lui parle malgache avec Priscilla tout au long de son enfance, ben elle devrait parler malgache. Si un jour elle commence à me parler en allemand, je me dirais, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vous a appelé, votre père, il est saint. Et son caractère, c'est la sainteté. Son caractère, c'est l'amour. Il veut vous entretenir dans cet amour et dans sa sainteté. Dans cette notion d'être à part, de s'éloigner du péché, des souillures de ce monde, de la convoitise charnelle. Il veut vous entretenir là-dedans. Et donc, son identité, ses caractéristiques, il veut vous les communiquer. Vivons comme notre Père est. Et il va continuer. À continuer à nous motiver sur notre identité, sur notre appartenance à Dieu. Et là, il va reprendre ce terme que Clément a partagé sur cette notion de père, encore une fois. Si c'est comme un père que vous faites appel, et ce père, s'il est celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, c'est-à-dire justement, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous honorez Dieu, Dieu qui, lui, sonde les cœurs, les reins, sonde les bonnes et mauvaises motivations. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne savez pas s'il est juste avec vous, pas s'il vous sourit par politesse, s'il est gentil, parce que vraiment il veut être gentil avec vous, c'est parce qu'il a peur. Ou... Dieu, lui, sait où est-ce qu'on en est. Et il juge justement. Il est juste dans la façon dont il nous regarde. Et il sait quand on aurait dû faire le bien ou le mal. Mais il dit, si vous appelez père cette personne-là, alors honorez cette personne-là dans votre attitude, dans la façon dont vous marchez, dans la façon dont vous vivez. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours, mais Dieu nous appelle à décider et à choisir. En Deutéronome 30, il dira à son peuple, choisis la vie, choisis le bien, choisis de me suivre. Donc, c'est-à-dire qu'on a un choix. Choisi. Ce qui est sûr, c'est que il faut se le rappeler. Ça a été dit il y a deux semaines, mais Pierre va en re-rappeler encore là. C'est pas à cause de toutes ces bonnes actions qu'on va être sauvé. Ça va être bon pour nous. C'est juste selon notre identité. C'est en cohérence avec ce que nous devrions être. Mais ce qui va nous sauver, c'est pas ça. Heureusement, parce qu'on a tous failli. On a tous failli à ce que Pierre nous encourage à faire. Être saint dans notre conduite. À être saint comme Dieu. À avoir l'entendement précis. À savoir où on va. À révérer l'Éternel. On a tous failli, malheureusement. On n'agit pas toujours comme Dieu le veut. Et gloire soit rendue à Dieu. Il donne ce qu'on appelle le pardon. Ce retour à la grâce. Et Pierre va nous rappeler, après avoir déjà mentionné au début qu'il dit toutes ces choses-là, il nous encourage à le faire à cause de ce que Jésus a fait, il va re-rappeler ce que Jésus a fait. Et c'est notre deuxième partie, le rappel du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité et notre motivation. C'est ça qui doit vous motiver dans votre vie chrétienne. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer au quotidien dans votre vie chrétienne si vous rappelez ce que Jésus-Christ a fait? Et voilà comment il l'aborde. Au verset 18. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il va rappeler trois choses. La première, c'est le prix important qui a été payé pour notre salut. La deuxième, c'est il va présenter la personne de Jésus-Christ. Et la troisième, il va nous rappeler le fondement de notre foi. Le prix de votre salut. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Le sœur tout à l'heure nous a demandé est-ce que nous sommes sauvés. Et si ce n'est pas le cas pour certains, j'aimerais donner cette occasion et savoir, mais comment on est sauvé? Je me rappelle, on faisait de l'évangélisation avec quelqu'un et on allait sortir et il y en a un qui dit, mais comment on est sauvé? Qui est dans l'équipe. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire aux gens s'ils ne savaient pas comment dire comment on est sauvé? Comment on est sauvé? Vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres. Vos attitudes mauvaises que vous accomplissez avaient des conséquences devant Dieu. On parle de dette devant Dieu et devaient être payées. Les conséquences de nos actions mauvaises ont devant Dieu une gravité importante. Mais il est dit que notre dette a été rachetée. Tout ce que nous avons fait de mal, Christ est venu le racheter. C'est comme si vous aviez une dette, ou que vous héritiez d'une dette, comme parfois on hérite des dettes, et quelqu'un vient et dit, moi je paye pour cette personne. Oui, mais tu te rends compte, c'est 1 500 000. Je paye. Et s'il faut, je me donne et j'hypothèque ma maison. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Mais la particularité de ce que Jésus-Christ a fait, Pierre dira, vous savez, vous avez été racheté et c'était pas juste de l'argent. On aurait pu mettre là, des argent et de l'or et de l'argent, mais c'était pas juste des dollars ou des euros. Ça disparaît, ça, dans un compte en banque, ça reste pas l'argent. Aujourd'hui, c'est là, demain, ça peut disparaître. Des gens étaient millionnaires hier, aujourd'hui, ils sont pauvres. Et inversement, l'argent, c'est périssable. Ça ne reste pas. Il y a quelque chose de plus puissant. Et c'était formidable qu'on l'ait chanté tout à l'heure. Il y a quelque chose de très précieux. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est son don de sa vie. Ça, c'est précieux. Et ça, c'est important. Et donner sa vie, mais ça, c'est... Je ne sais pas pour qui vous serez prêt à donner votre vie aujourd'hui. Pour qui on vous dirait, écoute, il faut que tu meurs pour que cette personne vive. Pour qui serez-vous prêt à le faire? Mais Jésus l'a fait pour nous. Et on dit ça, c'est précieux. Et n'oublie pas que quand il t'a sauvé dans ce sens-là, si toi tu n'es pas sauvé aujourd'hui, il suffit juste que tu reconnaisses que Jésus est venu payer ta dette. Et que désormais, tu veux vivre comme ça, en disant, je ne veux plus revenir dans ces actes précédents, je veux juste recevoir la grâce de Dieu et le suivre. Et parce que ce qui a été payé pour toi a du prix et un prix très important, alors vis en conséquence. Je me rappelle, moi, quand on arrivait à Madagascar et puis on allait commencer nos études, enfin à l'école, et puis, puisque à ce moment-là, à Madagascar, il n'y avait pas encore vraiment beaucoup de chéquiers ni de cartes bleues, donc mon père a dû payer les écolages en liquide. Et je le vois en train de prendre un sac... Ou alors le franc malgache avait une valeur assez basse. Mais un sac plein d'argent. Mais vraiment plein de billets. Je fais waouh! Et là, il me dit, tu te rends compte, c'est pour tes études, hein. Ah, je peux vous dire, ça met la pression. T'as intérêt à bien étudier après. Tu vois la valeur que tes parents sont en train de faire pour se sacrifier pour tes études. Et tu te dis, ok, d'accord. Je vais pas faire n'importe quoi de mon temps. Et merci Seigneur, ça a marché. Ça m'a bien motivé. Et là, Pierre, il dit, mais c'est pas de l'argent qui vous a racheté. C'est une vie. C'est pas de l'argent qui a fait que maintenant tu es pardonné de toutes ces fautes que tu avais. C'est une vie précieuse. Alors, s'il te plaît, vis en conséquence. Rappelle-toi que toutes les fois où tu étais dans la souillure, dans la méchanceté, et vous pouvez lister tous vos péchés, peut-être les choses qui vous mettent dans la honte, votre attitude envers les autres, envers Dieu. Il dit, toutes ces choses-là ont été pardonnées par Jésus, mais ça a coûté un prix. Ça a coûté la vie de Jésus. Alors aujourd'hui, ne retourne plus là-dedans. Aujourd'hui, ne retourne plus là-dedans. Le prix a été cher, a été lourd, mais il a été efficace, il a été payé. On va parler du prix, Pierre nous rappelle la beauté de Jésus-Christ, que c'est un agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ le parfait, et face à ses opposants, il leur dira « De quel péché me condamnez-vous » Jésus-Christ avait tellement d'assurance qu'il n'avait pas péché toute sa vie qu'il pouvait se mettre en face des gens qui le détestaient et leur demander « Quand est-ce que j'ai péché ?» Moi, si je fais ça auprès de mon église, ils peuvent me faire une bonne liste. Alors Ruben, là, à ce moment-là, bon, là, tu n'étais pas très... Mais si je fais ça en face des gens qui m'aiment pas, alors là, la liste s'allonge 10 fois plus. Jésus, il était tellement pur et tellement saint, il avait tellement accompli toute la loi, qu'il pouvait se mettre face à ses ennemis et dire « De quel péché me condamnez-vous » Et il ne pouvait pas répondre. Et la seule chose qu'il pouvait répondre, c'est « Tu t'es fait l'égal de Dieu. » Ah, manque de peau, il est l'égal de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, il s'est sacrifié pour toi et moi. Avec ce sang précieux. Et encore une fois, je vois que vous avez bien changé les chants. On l'a chanté, on l'a proclamé bien avant la fondation du monde. Ce plan était préparé par Dieu. Et au moment où les anges, les prophètes peut-être, les démons pensaient que, waouh, Dieu est en train de perdre parce que son sein s'est fait crucifier, et bien c'est là que la victoire est apparue. Waouh, il va ressusciter. Dieu avait préparé son plan dès la fondation du monde. Ce n'était pas quelque chose qui s'est passé du style Dieu perdait le contrôle et essayait de rattraper, vous savez. C'était préparé. Il savait ce qu'il allait faire. Prédestiné, verset 20, avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Nous sommes les bénéficiaires d'un plan glorieux et merveilleux. Nous sommes intégrés dans un élan de l'histoire qui est juste magnifique. Et Pierre, il s'en réjouit. Et même Pierre, il a compris des choses après. Il y a des choses qu'il n'avait pas compris quand il était avec Jésus. Il les a comprises après. Il a compris quand il a reçu le Saint-Esprit. Il a compris quand le Seigneur l'a inspiré. Il a compris quand il a vu Jésus-Christ ressuscité. Et là, il se réjouit en nous parlant, en vous parlant, en écrivant à ces chrétiens qui sont persécutés. Mais vous êtes les bénéficiaires d'un plan merveilleux. Est-ce que vous en êtes conscient? C'est un plan qui a été défini dès avant la fondation du monde et vous pouvez vous en réjouir. Et c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse faire cet après-midi. Nous rappeler de la beauté de ce plan. Nous rappeler de la beauté de celui qui nous a rachetés. Nous rappeler de la beauté de Jésus-Christ qui nous aime au point de donner sa vie pour nous et nous réjouir et lui dire merci. Que la lecture de ces textes, les amis, nous suscite en nous louange et reconnaissance. Parce que c'est ça ensuite qui va vous permettre de traverser les difficultés. Quelles qu'elles soient, financières, rappelle-toi l'espérance et la beauté de celui qui t'a sauvé. Des relationnels, rappelle-toi celui qui est le Dieu des relations. D'avenir, de crainte d'avenir, rappelle-toi celui qui a défini un plan dans le passé, bien sûr, qui peut définir le plan sur l'avenir. De péché, celui qui a vaincu le mal peut te délivrer aujourd'hui. Mais gardons les yeux fixés sur celui qui est parfait et qui agit en nous aujourd'hui. Et nous pourrons traverser cette vie de voyageur, c'est un peu comme ça que Pierre parle à son auditoire, et nous réjouir quand Jésus-Christ reviendra. Que votre foi repose sur l'espérance que Dieu donne, comme il le dit au verset 21. Vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et qui lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Prenons un temps maintenant, si vous le voulez bien, juste de tourner nos regards vers notre Dieu et de lui dire merci. Merci pour ce parfait salut. Merci pour cet héritage que tu me réserves. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour ton sang précieux. Merci pour le coût que tu as payé. Prenons un temps. Et ensuite, prenons aussi un temps pour répondre à cet appel, comme Pierre nous encourage à le faire. À cause de cela, c'est pourquoi tenez-vous en éveil. Et on va prendre un temps pour juste demander pardon au Seigneur et lui dire « Je me consacre à toi. Fais de moi un homme et une femme qui vit selon ta sainteté. Mais merci pour tout ce que tu nous as accordé. » Venons à lui, tournons nos regards vers lui et prions. Seigneur, merci pour ce salut et je te prie, éternel roi, de toucher toute personne qui, cet après-midi, n'a pas reçu ce salut. Qu'il comprenne qu'il a besoin du pardon que Jésus-Christ offre gratuitement et d'un changement de vie. Merci pour ce don précieux d'une vie sans défaut, pour une souffrance absolue, pour que moi et mes amis, nous puissions vivre et être rachetés, être renouvelés. Merci pour cet héritage que tu as prévu, pour tout ce que tu vas nous accorder, que tu commences déjà à nous faire goûter aujourd'hui. Merci pour ton Esprit Saint qui nous amène à avancer au quotidien. Merci pour les promesses. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de m'avoir appelé, de nous avoir appelés enfants de Dieu. Merci de nous avoir mis, d'avoir mis en nous ton Esprit Saint, ton caractère, ta personne, elle-même. Merci de faire vivre en nous Jésus-Christ. Merci pour cette communauté de Saint-Maur que tu as rachetée par ton sang précieux, que tu as établie comme tes enfants et que tu as choisi pour qu'ils puissent te représenter et briller de ta gloire là où ils sont. Merci pour cette communauté d'enfants de Dieu. Et en réponse à cela, Seigneur, nous te disons, nous voulons vivre pour toi. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, libère-nous de notre orgueil et de notre égoïsme. Libère-nous de tout ce qui nous amène loin de toi et aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et sur ton œuvre et ta puissance. Nous nous donnons à toi, nous voulons vivre pour toi. Et permets encore d'entendre la prière de ces personnes qui, dans la salle, décident maintenant de vivre pour toi à 100%. En réponse à ton appel, de vivre comme leur Père, saint. Fais-leur du bien, glorifie ton nom à travers cette Église et à travers ton peuple, à travers chaque personne ici présente dans cette salle, que la gloire de Jésus-Christ resplendisse à travers leur vie, dans leur fragilité, dans leur faiblesse, mais par la puissance de ton nom, par la puissance de ton Esprit Saint et par la puissance de ta parole. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen.